L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Neuf heures du matin, ce 21 juin 1994. Le réveil sonne dans un appartement niçois. Claude se lève, enfile son peignoir de soie sur sa chemise de nuit brodée, prend son téléphone et commande un taxi. Elle se dirige vers la salle de bain, se douche rapidement. Comme chaque matin, Claude se lave les cheveux, qu'elle porte désormais courts. Elle s'enroule une serviette de bain et rejoint sa chambre pour y choisir ses sous-vêtements. Noir, assorti, raffiné. Elle s'assied quelques instants sur son lit, enfile soigneusement ses bas. La veille, elle a préparé sa veste noire achetée dans une bonne maison parisienne et la jupe qui l'accompagne. Cela conviendra très bien. Pour apporter une touche d'éclat, Claude choisit de grandes boucles d'oreilles dorées. Les bijoux sont imposants en ce moment. Elle jette un bref coup d'œil à la fenêtre. Le soleil chauffe déjà les toits des immeubles voisins. En ce jour de juin 1994, elle a rendez-vous à Paris pour faire la promotion de son nouveau livre dans l'émission Matin Bonheur. Claude enfile ses chaussures, change de paire à plusieurs reprises, hésite. Elle choisit les mocassins avec un petit talon. Ils sont élégants et confortables. Elle prend le temps de se maquiller, même si elle sait qu'avant son entrée en studio, elle passera entre les mains d'une maquilleuse professionnelle. Il est hors de question d'aller jusque-là sans maquillage. Elle vérifie le contenu de son sac. C'est une habitude qui ne la quitte jamais. Il y a un rouge à lèvres, un poudrier, une paire de bas. Si ceux qu'elle porte devaient filer, elle aura ceux-ci de rechange. Il y a aussi un flacon de parfum de chez Guerlain, avec un vaporisateur comme dans les années 60. Ce sont les derniers parfumeurs de renom à les fabriquer encore. Elle se parfume et replace délicatement le flacon dans son sac Hermès. L'allure est parfaite. Cette nouvelle coupe de cheveux lui va ravir, pense-t-elle. Claude jette un dernier coup d'œil dans le miroir de la salle de bain. Un dernier coup d'œil dans celui du hall d'entrée au moment d'enfiler son manteau. Son taxi l'attend en bas. Son vol est dans moins de 2 heures. Il est un peu plus de 16 heures lorsque Claude passe ce jour-là le portique de sécurité de la maison de la radio à Paris. Direction les studios, où l'attend le journaliste qu'il a invité pour parler de son livre. Claude est accueilli par une assistante de l'émission. Elle la remercie poliment en déclinant sa proposition de manger quelque chose. Elle a pris le temps de se restaurer en cours de route. D'autres invités attendent dans un salon aménagé à cet effet. Il y a plusieurs enregistrements, l'un à la suite de l'autre, mais l'équipe est à l'heure. Elle n'aura pas trop à attendre. En revanche, elle est prévue d'ici quelques minutes au maquillage. Du regard, Claude surveille chaque détail. Elle veille à ce que le rouge aux lèvres soit discret. Enfin, la grande aiguille de l'horloge du studio de maquillage avance d'un cran. Elle indique 17h10 lorsque Claude entre en studio. Elle prend place en face du journaliste. Bref présentation. Décompte dans l'oreillette. Le journaliste l'accueille d'un sourire et présente son livre. L'histoire de Madame Claude par Madame Claude. Nous sommes le 21 juin 1994. Il est 17h16. C'est l'heure H de notre histoire. On sent un parfum de vérité dans vos propos, dit le journaliste. En quelques mots, il rappelle brièvement la vie sulfureuse de cette septuagénaire élégante. Pour la première fois dans un livre, Madame Claude, vous levez le voile sur votre enfance et sur votre jeunesse en province avant d'arriver à Paris. Ensuite, certains d'entre vous connaissent l'histoire, vous êtes devenue la plus grande et la plus prestigieuse proxénète de la 5e République et du monde. Madame Claude confirme. Elle est bien née Fernande Joséphine Grudet, le 6 juillet 1923, dans un milieu bourgeois d'Angers. Son père était maire de la ville, ingénieur civil. C'était un industriel. Son grand-père était extrêmement fortuné. Elle a vécu une enfance heureuse entre sa sœur et ses 3 frères. Des repas de famille animés et festifs, des vacances en famille dans la jolie vallée de la Loire, pas très loin d'Angers. Elle a étudié chez les sœurs visitandines. Elle y a reçu la meilleure éducation. Cette jeunesse dorée ne laisse en rien présager la suite de son histoire. Mais comment en êtes-vous arrivé à la prostitution ? Interroge le journaliste. Oh, vous savez, répond Madame Claude. La guerre est arrivée. Un de mes frères et mon père ont été fusillés. Il a fallu subvenir aux besoins de la famille. Nous n'avions plus rien. Tout cela était très courant à cette époque, partout en France. Dans son livre, Madame Claude raconte sa déportation, son arrestation, son voyage dans des wagons à bestiaux et ce convoi qui l'emmène jusque dans le camp de Ravensbrück, en Allemagne. Personne, à ce moment-là, dans ce studio de télévision, ne se doute de son imposture. Même pas la directrice d'édition de son livre qui commentera par la suite. Jamais je n'ai imaginé que quelqu'un puisse utiliser les camps de concentration à des fins romanesques. C'est porter atteinte à l'honneur et à la souffrance des autres. En réalité, toute sa vie, Madame Claude, née Fernande Joséphine Grudet, va romancer sa vie, embellir son existence, transformer ce qu'il y a de plus quelconque, de plus triste, de plus noir, en un merveilleux roman d'amour, en un conte de fées. Quelle a pu être la détresse, la fracture de cette petite fille née le long d'une voie de chemin de fer pour rêver sa vie à ce point? Car Fernande Joséphine Grudet n'est pas issue de la bourgeoisie provinciale d'Angers, comme elle le raconte. Ses parents sont de modestes travailleurs. Ils tiennent un petit café qui ne semble pas suffire aux besoins du couple. Alors Alfred, le père de Fernande, qu'on ne connaît qu'en bleu de travail, tire sa charrette à bras jusque sur les quais de la gare voisine et propose aux voyageurs des sodas, des limonades et des sandwichs. On travaille dur chez les Grudet. Peut-être pour oublier le chagrin d'avoir perdu une fille aînée à l'âge de 19 ans. La petite Fernande n'avait qu'un an. Pour la toute jeune enfant, pas de mots sur ce chagrin, mais le sentiment gravé dans sa chair de devoir grandir en se faisant discrète, de se faire oublier face à la détresse de ses parents, d'être parfaite. La petite fille cherche sans doute à combler la mélancolie familiale. Alors, à la noirceur de la détresse, elle répond par un monde de beauté imaginaire. À l'école, la petite Fernande est appliquée. Elle est ce qu'on appelle une enfant modèle. Elle travaille dur. Le soir, après ses cours et les week-ends, elle astique les cuivres des pompes à bière du café de ses parents, en silence. Contrairement à ce que Madame Claude affirme dans son livre, il n'y a pas d'autre enfant chez les Grudet. La petite Fernande, isolée, seule, a rêvé cette famille nombreuse, animée par les éclats de rire des autres enfants, amusée par les facéties de ses grands frères, tantôt la taquinant, tantôt la protégeant. Pas de frères chez les Grudet. Pas de visite en dîne non plus. L'ordre religieux où Madame Claude dit avoir été en pension est un ordre contemplatif qui n'a jamais prodigué d'enseignement. La petite fille étudie à l'Institut Jeanne d'Arc, dirigé par des demoiselles. Elle y est, comme je l'ai dit, bonne élève, en religion du moins, parce qu'en morale, elle n'obtient qu'un satisfaisant. Dès l'âge de 12 ans, elle se rend seule à vélo à l'école. La jeune fille a changé d'établissement et fréquente désormais l'Immaculée Conception. Elle y côtoie des jeunes filles de la bourgeoisie rurale. Fernande est secrète. Elle se tient à l'écart des autres jeunes gens et s'invente un monde plus beau. À 13 ans, elle rêve auprès de ses camarades d'une vie plus éclatante. La jeune Fernande se dit appartenir à la meilleure société angévine. Son père est ingénieur au chemin de fer et elle habite les beaux quartiers d'Angers. Elle ne parle pas du sinistre bistrot que tiennent ses parents dans les faubourgs de la ville, à Bressigny. Quelques années plus tard, Fernande perd son père, alors qu'elle n'a que 16 ans. Les versions sur sa disparition varient. Si en réalité il meurt à l'hôpital d'un cancer du larynx à la veille de la guerre, elle racontera parfois qu'il s'est suicidé, parfois qu'il a été fusillé. Puis, si le récit que Madame Claude livre de sa vie nous entraîne vers le camp de concentration de Ravensbrück, en réalité, son nom n'apparaît dans aucun registre de déportés. On perd quelque temps la trace de la jeune Fernande. On retrouve son nom en 1942, au Pays Basque, alors qu'elle donne naissance, le 5 septembre, à une petite fille qu'elle nomme Annie. Fille mère, elle ne parlera jamais du père de l'enfant, même si parfois, dans une rare confidence, elle révèle qu'il s'agit d'un résistant, une version sans doute plus glorieuse que toute autre vérité. Elle confie l'enfant à sa mère et part conquérir Paris, avec la volonté farouche d'assumer financièrement cet enfant. Fernande trace son destin. Elle veut l'éclat et la grande vie. Elle laisse derrière elle une partie de son identité. Lorsqu'elle arrive à Paris, la jeune provinciale découvre la beauté, l'esthétisme, l'élégance, le style et le chic parisien. Fernande ne se trouve pas jolie. Qu'à cela ne tienne, cette ville va la façonner. Le Paris des années 50, la voix de Juliette Gréco, les textes de Boris Vian, les clubs de jazz charmant en Fernande. Même si elle parle d'aspirant comédien, elle se tourne très vite vers Montmartre et y découvre un tout autre monde qui semble plus lui convenir. La vie nocturne, elle se fabrique doucement. Vérité ou mensonge, celle qui deviendra Madame Claude raconte dans son livre que c'est auprès d'une petite frappe qu'elle découvre l'amour. L'histoire ne dure qu'un temps. À la suite de leur rupture, folle de chagrin, elle tente de se jeter d'un pont. Un clochard parisien l'en dissuade. Il lui aurait dit « La vie est belle, regarde Paris, profite de cela. » Récit romanesque s'il en est, mais Madame Claude remonte en selle, avec plus que jamais l'envie furieuse de conquérir cette ville. Elle goûte avec plaisir le charme des petits restaurants de son quartier de Montmartre. Des voyous corses se sont établis sur la butte parisienne et il y règne un parfum de petite criminalité. Environnement qu'apprécie la jeune femme qui se mêle un peu à cette mafia régnante. Il est vraisemblable que ce soit là que Fernande goûte pour la première fois à la prostitution. On la retrouve sur le trottoir, derrière l'opéra, avenue Joubert, ça, c'est une certitude. Avec la prostitution, Fernande laisse derrière elle son prénom et fait le choix d'un prénom double. Désormais, on l'appellera Claude, masculin, féminin. Claude joue de l'androgynie de son nouveau prénom et fabrique son personnage. Est-ce pour protéger Fernande qu'elle choisit de changer de nom et de s'appeler Claude? C'est elle, au moment où elle emprunte ce prénom, relativement moderne pour l'époque puisqu'il est apparu en 1900, c'est elle que, dans l'étymologie et la signification des prénoms, les Claudes préfèrent l'ombre à la lumière. Qu'elles sont consciencieuses, discrètes, et qu'elles ont un sens inné de l'organisation. Que leurs décisions sont mûrement réfléchies. En 1957, c'est un de ses clients qui incite Claude à s'installer. Rachète-t-elle, comme elle le dit, le fonds de commerce d'une amie ? En tout cas, elle s'installe dans le 11e arrondissement, sur la rive droite de la Seine, au 18 rue de Maringrou. Dans un trois pièces avec Kim, Maïté, Suzanne et un jeune homme, recruté sur le trottoir, on reçoit des clients. Si le client n'est pas satisfait, il pousse sur un bouton, la lumière s'allume dans le bureau de Claude et elle le rejoint pour lui donner pleine satisfaction. Bientôt, Claude n'intervient plus auprès de ses clients. Dans les années 50, elle crée un personnage de femme bourgeoise, éduquée, élégante. Un style qui, dans le paysage des maisons closes et des tenancières de bordel, révolutionne l'image de la profession. Claude veut développer sa propre affaire. Avisée, elle commence par mener une étude de marché. Elle visite les prostituées de tous les quartiers de Paris. Les femmes seules, celles qui ont des filles, des endroits, celles qui envoient des filles. Claude analyse tout. Quel tarif, pour quelle pratique et pour qui? Elle repère toutes les strates de la profession en faisant le tour de tous les bordels, de toutes les maisons closes et de toutes les maisons de passe de Paris. D'emblée, elle choisit un créneau huppé. Elle veut du haut de gamme. En 1946, la loi empêche l'ouverture de nouvelles maisons closes. qu'à cela ne tienne. Fernande fait un choix plus confidentiel et plus avisé. Elle veut des beaux quartiers et un appartement privé. Dans le 16e arrondissement, entre le quartier d'Auteuil et la place du Trocadéro, Madame Claude investit un immeuble haussmannien élégant au numéro 32 de la rue de Boulainvilliers. Oh, l'appartement est cossu. Il y a deux lignes de téléphone. Une pour les clients, les garçons, comme elle les nomme, et une autre qui lui permet d'être en relation avec les filles.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Comment une femme a-t-elle pu monter en quelques années le plus grand réseau de prostitution de luxe au monde? Comment Fernande Joséphine Grudet, une petite fille arrivée tout droit de sa province natale, a-t-elle pu conquérir les plus hautes sphères de l'État? C'est l'histoire incroyable que je vous raconte aujourd'hui dans leur H. La modernité de Madame Claude, c'est d'importer en ce début des années 50 un système de call girls comme il en existe aux États-Unis. La jeune proxénète ne rêve pas de conquérir le monde. Elle veut juste son indépendance. C'est tout. Et puis, Madame Claude prend plaisir à dominer les hommes en maîtrisant leurs désirs. En réalité, elle n'aime pas le sexe. Elle le trouve joli entre jeunes gens uniquement. Après 40 ans, elle considère que les corps sont laids, qu'il faut s'arrêter. La jeune femme a un peu plus de 25 ans. Elle anticipe sans doute sa reconversion et puis, c'est incontestable, elle aime l'argent. Alors elle va créer une incroyable industrie du sexe. Pour sa nouvelle affaire, il lui faut des filles, très belles. Assez vite, elle s'aperçoit qu'en fin de compte, il y a assez peu de femmes vraiment belles. Elle les veut grandes, ça c'est certain, élancées, avec de jolis gestes. Parfois, un nez ou des dents lui déplaisent, alors elle envoie la fille chez un dentiste ou un chirurgien esthétique. Elle en connaît de bons, ayant eu recours elle-même à la chirurgie. Elle rencontre 20 filles pour n'en garder qu'une. Elle la fait se déshabiller, observe ses gestes. Elle la regarde bouger, examine sa poitrine. Elle les choisit jeunes pour pouvoir les modeler. Madame Claude les veut éduquées, instruites et partageant la même vision de la vie qu'elle. Bilingue aussi. Il faut que ces filles soient cultivées, qu'elles puissent converser avec un homme. Parfois, la proxénète construit leur culture générale, allant même jusqu'à les interroger telle une mère supérieure de pensionnat. Quelle est la formule de l'eau? Où se trouve le désert de Gobi? Et elle comble l'éducation manquante. Madame Claude impose à ses filles un savoir-faire. Elle leur apprend à décorer leur studio lorsque les filles en ont un ou recevoir ces messieurs. Il faut qu'ils soient agréables, rassurants, accueillants, élégants. Elle leur apprend à séduire, à mettre un disque, à danser, à flatter, à converser, à jouer. C'est elle qui leur montre comment écouter les hommes, les valoriser, les mettre en valeur. Elle leur enseigne tout ce qu'elle reproche aux épouses acariâtres et éteintes. Fernande, jeune, a écouté ses clients. Elle sait ce qu'ils viennent chercher. Madame Claude transmet à ses filles le savoir-dire et surtout le savoir-être. Elle impose le choix de vêtements, des tenues de créateurs. Elle retourne leur sac à main et en organise le contenu. Il faut qu'il y ait un rouge à lèvres, un poudrier, une paire de bas. Si ceux qu'elles portent devaient filer, elles auront ceux-ci de rechange. Il faut un flacon de parfum de qualité, enivrant. Madame Claude veut que les garçons qui rencontrent ses filles pensent retrouver leur épouse, en plus jeune, à l'époque de l'innocence. Vision d'une petite fille qui n'a jamais grandi. Elle veut que ces messieurs pensent vivre un moment agréable avec une des leurs, une nièce ou une sœur. Mais en plus de ses qualités d'excellence, il faut que la jeune femme soit belle comme une créature de cinéma. Madame Claude, en quelque sorte, crée une marque. Sa marque. Impossible dans ce contexte d'élégance, lorsqu'on veut devenir une impératrice de charme, de raconter des origines quelconques. Madame Claude entretient le mystère autour d'elle et joue de sa personne. Elle crée un monde où volupté et moralité deviennent un royaume de chimères et de faux-semblants. Madame Claude crée l'illusion de l'amour sans attachement. Avec ses filles, elle se définit comme Pygmalion, ce personnage masculin de la mythologie grecque qui, avec l'aide d'Aphrodite, déesse de l'amour, donne vie à Galatée, la statue qu'il avait sculptée et dont il était tombé éperdument amoureux. Elle façonne ses filles, ses petits cygnes, comme elle les appelle, pour les mener au succès. Et puis elle les teste, en quelque sorte. C'est un de ses amis qui joue ce rôle. Un certain Jacques Coiré, qui n'est autre que le frère de la romancière Françoise Sagan. Ses filles sont belles. Elles ont demandé beaucoup de travail et d'investissement. Il faut 2 ans pour fabriquer une fille. C'est long, affirme la proxénète. Ces messieurs vont donc payer très cher pour satisfaire leurs désirs sexuels. Entre 10 000 et 15 000 francs français la nuit, soit 1 500 à 2 000 euros. Madame Claude prend 30%. Qui sont ces messieurs, ces clients dont on ne prononce surtout pas le nom? Les mots de pute, de client, de proxénète sont gommés du vocabulaire. Interdiction formelle de les prononcer. Madame Claude veut enlever ce qu'il y a d'équivoque et de laid dans ce métier. Madame veut rendre le vice joli. C'est ça, dit-elle. Ce sont des jeunes filles et des garçons, et ils se rencontrent tout au plus. Ces garçons, ce sont des dignitaires, des hommes politiques, des capitaines d'industrie, des bourgeois, des artistes, des personnalités du show business, des têtes couronnées, des chefs d'État. Madame Claude crée un système de cooptation. Très intelligemment, on entre chez elle comme dans un club d'affaires, en quelque sorte. Sa force, c'est son réseau. Sur son bureau et partout avec elle, un carnet noir, une sorte d'agenda qui ne la quitte jamais. Méticuleuse, elle y note tout. Les numéros de téléphone des garçons, mais aussi les heures de rendez-vous. Les filles, leurs numéros et les pratiques de ces messieurs, ce qu'ils aiment. Un peu plus tard, des photos aussi. Dans l'élite de sa clientèle, on retrouve entre autres John Fitzgerald Kennedy, Aristote Onassis, Marc Chagall, l'homme d'État libyen Kadhafi, le Shah d'Iran et Giovanni Agnelli, le petit-fils du fondateur et patron de Fiat. Madame Claude dit connaître toutes les têtes couronnées d'Europe. Elle se lie avec le neveu du roi Farouk, le milliardaire égyptien Ibrahimi, et elle tutoie les puissants. Sur ses clients français, elle ne dit rien. Elle a l'éthique parfaite de ce monde de discrétion. Selon la proxénète, un homme très riche est habitué à être aimable. Il est poli avec les femmes, qu'il considère d'une autre manière. Elle admet et plaisante. Oh, il y a des hauts et des bas dans ce métier. Si vous vous adressez à une certaine clientèle, on enlève les bas au propre comme au figuré. La réalité est plus rude. Les princes charmants ne sont pas tous charmants. Certains caprices sont dérangeants. Des violences arrivent. Certaines filles rentrent de séjour à l'étranger en bien mauvais état. Ou ne rentrent pas. Mais Madame Claude assure, les filles ne se sentent pas piégées. Elles sont libres de partir. Libres, oui, contre des milliers de francs en retour sur investissement. Les filles doivent rembourser les factures. Les vêtements des créateurs, Dior, Vuitton, les coiffeurs, les médecins, tout est remboursé par les filles. Si elles décident de partir, elles paient ou trouvent une remplaçante. L'entremetteuse peut être impitoyable, mais elle veille sur ses filles comme une mère louve, leur imposant par exemple une visite médicale par semaine. Madame Claude sait penser à tout. Le succès est tel que désormais, ce sont les filles qui viennent à Madame Claude. Dans un dîner, parfois, un homme de ses amis glisse à une jeune femme le numéro de téléphone de madame en leur disant « Vous valez beaucoup mieux que cela ». Ce qui séduit ces jeunes filles, l'argent, bien entendu. L'aventure et le rêve de gloire que promet Madame Claude. Les filles sont consentantes, toujours. Elles espèrent devenir chanteuses ou comédiennes dans les bras d'un riche producteur. Elles rêvent d'un mariage somptueux avec un milliardaire, même si, accessoirement, Madame Claude fait payer au prince charmant le dédommagement des frais engagés pour la future épouse. Catherine, son bras droit, recrute aussi dans les célèbres établissements parisiens, au Crazy Horse, chez Régine ou chez Castel. Une vie qui bascule sur un rêve de gloire et d'ascension sociale. Étonnamment, la proxénète reçoit la visite de femmes mariées, parfois en quête d'aventure. Parfois même, tenez-vous bien, accompagnées de leur mari. Madame Claude se souvient de la visite d'un très grand nom de France. Il avait un château sur les bras et des problèmes de trésorerie. Lors de la rencontre, le grand aristocrate salue Madame Claude en mettant les formes. Son épouse l'accompagne. Elle est ravissante, 30 ans tout au plus. Dans la conversation, le plus naturellement du monde, le châtelain propose les services de son épouse à la plus grande proxénète de France. Dans un premier temps, Madame Claude refuse. Elle a l'habitude de choisir des femmes plus jeunes. Aussi charmante que fut la belle épouse, il est plus facile de modeler une toute jeune fille plutôt qu'une femme de 30 ans. On en reste là. Chacun se salue. Puis Madame Claude réfléchit et se dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Elle rappelle le châtelain, rencontre à nouveau ce couple de nobles désargentés et, alors que la conversation est engagée, s'adressant aux époux, elle tente « Madame est-elle prête à travailler sous votre nom ?» À sa grande surprise, le noble répond « Absolument !» Prudente, Claude ajoute « Ne craignez-vous pas pour vos relations ?»« Ah, pas du tout !» Et la réponse du couple, légende ou vérité. À partir de ce moment, la jeune épouse fit un carton sous le regard de son mari qui voyait son découvert à la banque se combler et les toitures de son château se rénover. L'activité de Madame Claude est un succès. Mais elle fait aussi le vide autour d'elle. Il n'y a plus de proxénète sur la place de Paris. Pour tenir le coup, il faut qu'elle assure sa sécurité. La proxénète sait que pour être protégée, il faut aller très haut. Et pour être à l'abri longtemps, il faut aller au plus haut. Alors tous les 15 jours, on aperçoit Madame Claude dans le premier arrondissement parisien pousser la porte du célèbre 36 quai des Orfèvres. C'est le siège de la police judiciaire de Paris, appelée aussi la Mondaine. Dans les années 50, la légalité est à géométrie variable. Le service de police est chargé de compiler des renseignements. Des tas de petites antennes, comme on les appelle, informent la Mondaine. Le service aime particulièrement le show business. Madame Claude les renseigne donc sur les pratiques sexuelles des producteurs de télévision, de cinéma ou de plus puissants encore. Elle sait que c'est le passage nécessaire pour maintenir son activité et que là, ses secrets d'alcôve seront bien gardés. Dans ses bureaux, chaque 2 semaines, on rédige, en sa compagnie, ce qu'on appelle des blancs. Des rapports écrits qui contiennent les habitudes de ces messieurs, leurs travers sexuels. Durant près de 20 ans, des centaines de personnes seront fichées sur leurs pratiques les plus intimes. Des noms et des informations qui remontent jusque sur les plus hautes marches de l'État, chez le ministre de l'Intérieur. Sans cette activité de renseignement, Madame Claude sait qu'elle subirait des sanctions judiciaires. Et puis, cette protection de la Mondaine la préserve également du fisc. Le commissaire principal est en lien avec le Trésor. C'est lui qui le renseigne sur qui contrôler. Par cette collaboration, Madame Claude se rend intouchable. En tout cas, pour l'instant. Au sein de l'État, certains comprennent bien l'utilité de son réseau. Au début des années 60, la proxénète est contactée par les services secrets français extérieurs. On lui propose de jouer un rôle d'agent secret travaillant pour le compte de l'État. Le nom de code de Madame Claude devient Violette. Des filles sont envoyées pour obtenir, sur le compte de l'État, des confidences sur l'oreiller. Une pratique très courante en France dans les renseignements à cette époque. Dès leur retour, les filles sont auditionnées par un officier des services secrets en quête de précieuses informations. L'État français devient donc le pourvoyeur de la clientèle de Madame Claude. Et Madame Claude devient la mère maquerelle de l'État. Elle accepte même que ses filles poursuivent leur mission à l'étranger. Seulement, au-delà de la métropole, la sécurité des filles n'est pas assurée. Plusieurs ne reviennent pas. On les retrouve mortes dans les bras de leurs clients ou on ne les retrouve pas. Raison d'État. L'État français n'ouvrira jamais d'enquête. Ces informations données pendant des années assurent à Madame Claude un très beau train de vie. À l'aube des années 70, il se dit qu'elle serait plusieurs fois millionnaire et intouchable. Pourtant, un homme va faire tomber la plus grande proxénète de Paris.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire incroyable d'une petite fille de province devenue la plus grande proxénète de Paris. Une petite fille aux origines modestes qui rêve d'une vie d'éclat et construit le personnage de Madame Claude à coups de travail, d'affabulation et de mensonges. Madame Claude. Son nom seul est devenu un nom commun. Il désigne un proxénète de luxe. Dans ses clients, Madame Claude compte un jeune ministre français du nom de Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre de l'économie et des finances. Et c'est un quiproquo qui va précipiter la chute de la proxénète. Le jeune ministre qui joue sa campagne politique, à l'instar de celle du président américain John Fitzgerald Kennedy présentant des images de sa famille parfaite, est surpris au lit avec une jeune fille de Madame Claude. Mais contrairement à ce que pense le jeune Giscard, l'intrusion dans la chambre à coucher où il se trouve en compagnie de la jeune fille de Madame Claude n'a rien d'un piège. En réalité, la danseuse avec qui le ministre est en train de partager un moment fréquente dans sa vie privée une autre femme extrêmement jalouse de ses activités. C'est elle qui débarque, folle de rage, dans l'appartement où se trouve Giscard, provoquant une scène épouvantable. Les deux femmes s'écharpent littéralement sous le regard de Giscard, d'abord incrédule puis inquiet, qui, affolé, ramasse ses affaires et quitte précipitamment l'appartement. Furieux, le jeune ministre est certain, lui qui est en course pour l'Élysée, on a voulu le piéger. Il craint pour son mandat et décide de faire tomber Madame Claude. La proxénète était protégée, elle va être lâchée. Et la chute de Madame Claude va s'accélérer par la nomination à la présidence de la République d'un certain Valéry Giscard d'Estaing. Une fois élu, le 20e président de la République française entend moraliser la France. C'est le point fort de sa communication. Il veut en finir avec la France des copains et des coquins. En perdant ses protecteurs, Madame Claude perd son utilité. Les années 70 voient des femmes plus émancipées dans l'espace public. Les mœurs se sont libérées. Les femmes se rendent plus disponibles. La prostitution est en chute libre. Et la politique, vis-à-vis des proxénètes, plus stricte. En pleine époque de libération sexuelle, les secrets d'alcôve intéressent moins. À la mondaine, au 36 quai des Orfèvres, on passe du renseignement à la répression. Madame Claude est poursuivie et condamnée à 10 mois de prison avec sursis. Le fisc lui réclame 11 millions de francs français de l'époque, soit près d'1 700 000 euros. Alors Madame Claude se marie en Suisse pour pouvoir quitter la France et fuit en direction de Los Angeles. Elle se refait une vie sous le nom de Claude Tolmachev. Dans la foulée, elle ouvre une boulangerie, un restaurant, une galerie d'art, mais elle parle mal anglais et se fait rouler dans la farine, c'est le cas de le dire. Pour obtenir la fameuse carte verte lui permettant de résider sereine sur le sol californien, elle épouse un Américain. Il est barman, homosexuel. Il a 20 ans de moins qu'elle. La fraude est évidente. Le service de l'immigration l'expulse des États-Unis. C'est sous son nom d'épouse que Claude Cook, pensant ses ennuis derrière elle, rentre en France. Quelques mois plus tard, alors qu'elle vit discrètement dans le Lot, Madame Claude est arrêtée. Elle purge alors 1 an et demi de prison dans le petit établissement pénitentiaire de Cahors. Elle souhaite garder son manteau de vison. Demande accordée. C'est donc tout naturellement que Madame Claude rejoint les autres détenus à l'heure du repas avec son somptueux manteau sur les épaules. Madame Claude reste Madame Claude. De la directrice de l'établissement, elle obtient une cellule à part. Et chaque semaine, cette même directrice passe chez le poissonnier, lui acheter quelques tranches de saumon pour améliorer son quotidien. Dès sa sortie, Madame Claude ouvre une petite boutique de vêtements, mais elle applique les mêmes formules que pour ses filles. Elle conseille ses clientes sur le ton d'une directrice de pensionnat, en les incitant à perdre les kilos superflus. Elle fermera boutique quelques mois plus tard. En 1991, elle paie une lourde amende à l'État français. Madame Claude monte un nouveau réseau de filles. Il faut bien vivre, après tout. Elle s'installe dans un appartement du quartier du Marais avec une douzaine de filles, là où autrefois, d'après la police, elle en aurait fait tourner près de 500. À la mondaine, on est très vite informé. Mais cette fois, c'est une femme, commissaire, petite fille, fille et femme de flic qui est en charge de l'enquête. Si le dossier de Madame Claude a étrangement disparu de la mondaine, la commissaire connaît la réputation de la proxénète. Elle sait que dans ce monde d'hommes, elle doit travailler en toute discrétion. C'est ce qu'elle fait. Planque, filature, photographe. La brigade de répression du proxénétisme monte un dossier. Pendant ce temps, pour vivre, Madame Claude se montre dans les médias. Dans les années 90, pour la première fois, la proxénète accorde à TF1 un entretien à visage découvert dans une émission spéciale appelée « Les confessions de Mademoiselle Claude ». Ah, il est loin le temps où, lors de ses premiers passages télévisés, Madame Claude apparaissait à visage couvert. On se souvient dans les années 80 du célèbre journaliste Philippe Bouvard prévenant les enfants d'aller jouer quelques instants pour accueillir ensuite la proxénète dissimulée en ombre chinoise derrière un paravent éclairé de rouge. La célèbre Madame Claude menait ses apparitions. Elle fait la promotion de son livre comme une personnalité publique à part entière et se prête même au jeu des émissions de variété. L'animateur Patrick Sébastien, sur TF1 toujours, la reçoit avec les honneurs, comme une grande dame. Et à la question d'Olivier de Kersauzon, le navigateur français, alors chroniqueur, « Avez-vous une fille ?» Madame Claude répond « Non ». Une de ses anciennes call girls, Patricia, raconte dans un livre « Madame Claude appelait sa fille Anne, même si elle l'avait appelée Annie. Elle avait les cheveux auburn, blond vénitien. Elle n'était pas très jolie. Ce n'était pas facile pour Claude. Elle a tenté d'avoir une relation avec sa fille, mais c'est pas facile d'être la fille de Madame Claude. En 1992, Fernande Joséphine Grudet, la petite fille de province, devenue la plus grande proxénète de France, est condamnée à 3 ans d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé, dont 30 mois avec sursis. Incarcérée à la prison de Fleury-Mérogis, elle purgera 10 mois de prison. Pour Madame Claude, la condamnation est difficile. Le proxénète prend de l'argent, moi j'ai rendu service, et un service extrêmement difficile. Je leur expliquais tout et veillais sur mes filles. Je prenais soin d'elles, mais elles ont eu des vies très agréables, vous savez. Patricia, auteur du livre « Call Girl » du Tout Paris, raconte avec émotion la plus belle année de sa vie. C'était en 1975. La jeune fille, formée par Madame Claude, avait à peine 20 ans. Cette année-là, elle s'est souvent rendue en Italie, chez le patron de Fiat, Giovanni Agnelli. Dans son livre, elle raconte l'anecdote d'un week-end en particulier. Le célèbre patron de la marque automobile s'était offert une escapade discrète en compagnie de la call girl. Patricia se souvient de l'insouciance d'un week-end heureux dans la campagne italienne, se promenant main dans la main comme de simples amoureux, riant et s'amusant comme des enfants. De retour, les amants s'étaient aperçus que toute l'Italie recherchait le patron de Fiat. En plein contexte des Brigades Rouges, l'organisation terroriste d'extrême-gauche italienne, on imaginait que Giovanni Agnelli avait été kidnappé. Le patron de Fiat s'était simplement offert un week-end hors du temps. Comme une bulle de bonheur. Des choses toutes simples, dit Patricia en riant. C'était des années de liberté et tout était possible. Madame Claude, qui disait « Deux choses marchent dans la vie, la bouffe et le sexe. J'étais pas douée pour la cuisine. » s'est éteinte seule à 93 ans, dans l'appartement niçois où elle vécut ses dernières années grâce à la générosité de certains amis. Sa fille Annie n'a pas assisté à ses funérailles, mais elle en a réglé la facture. C'était l'heure H de Madame Claude. la plus grande proxénète au monde. Voilà donc pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume d'Armel.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.